Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast Futur Chien Guide étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide ? Alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage deux fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chien guide, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. Et en parlant des coulisses, je vous propose aujourd'hui de découvrir celle d'un événement inédit et pour autant assez confidentiel. L'actrice majeure de cette rencontre n'est autre que Séverine, une famille d'accueil nantaise avec qui j'échange depuis ses tout premiers questionnements pour devenir famille d'accueil. Alors, imaginez qu'on se connaît bien, qu'on s'est même croisé en vrai à Rennes et que j'ai tout de suite voulu en savoir plus quand j'ai vu qu'elle avait organisé tout un programme pour les retrouvailles de la fratrie d'Oumi et bien plus dans un lieu central aux origines de la naissance de la portée. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Séverine.
Bonjour Estelle.
J'espère que tu vas bien. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation à la veille d'un grand départ, on va le dire en plus, sur mon podcast Futur Chien Guide. Ça fait un moment qu'on discute ensemble, puisque je regardais avant notre enregistrement les premiers messages qu'on s'est envoyés. Et ils datent de 2021, puisque tu m'avais envoyé au tout début de ton aventure, même avant ton aventure de famille d'accueil, pour réfléchir et savoir comment faire toutes ces démarches. Et tu es allée très loin, puisque aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a beaucoup marqué, c'est la rencontre que tu as organisée de la fratrie de ta deuxième élève chien guide. Donc, un gros sujet, j'adore en plus les rencontres, tu le sais, on s'est rencontrés nous-mêmes en petit comité, puisqu'on était en un à un, mais j'ai hâte que tu nous en dises plus. Avant ça, j'aimerais que tu te décrives en trois mots et que tu décrives ton ou tes chiens, si tu veux dire trois mots pour chacun. Qu'est-ce que tu nous dirais pour toi et pour chacun de tes élèves chien guide ?
Alors, pour moi, je dirais organisé. Passionnée, notamment par l'univers des chiens guides, c'est ça qui m'a amenée à faire la rencontre, et voyageuse. Pour Oumi, c'est une chienne, donc c'est une Golden Retriever qui est du coup très câline, qui est également expressive.
Donc c'est ta deuxième élève, Oumi.
Exactement, Oumi c'est ma deuxième élève chien guide, donc c'est une Golden Retriever qui est née en 2023, elle est née l'année début. Et en dernier mot, je dirais curieuse. Et mon premier chien, du coup, notre premier élève, c'était donc Trusty, un labrador noir qui est actuellement en fin d'éducation. Et lui, c'est un chien que je décrirais comme énergique, qui avait énormément d'énergie quand on l'a eu. Assuré, c'est un chien qui est pas du tout craintif, là où Mi peut avoir des fois un peu plus de crainte. Et enfin, c'est un labrador, donc c'est très gourmand.
Et tu disais énergique, je me souviens aussi dans nos premiers échanges, que tu m'avais annoncé l'arrivée de Trusty, je relisais ça tout à l'heure, et en fait, moi, j'avais hyper bien rebondi en disant « Ah, vas-y, raconte-moi comment ça se passe les premiers jours », et toi, tu avais dit « Je suis désolée, je t'ai répondu un peu tard, parce que là, les premiers jours, c'était un peu beaucoup. »
Tout à fait, c'est un peu sportif, l'arrivée d'un élève chien guide. Nous, en plus, on n'a jamais eu de chien avant, donc c'est notre premier élève, mais premier chien tout court aussi, donc... Un petit show qui débarque, ça remue un petit peu.
Ouais, et j'ai relu ce message en me disant « Ah oui, c'est vrai que c'était les tout débuts. » Mais c'est toujours comme ça, l'arrivée d'un chien de toute façon. Et quand tu dis « organisée, passionnée et voyageuse », mais quel mot pour décrire par rapport à la rencontre que tu as organisée ? Enfin, moi, de l'extérieur, j'ai vu une rencontre de toute une fratrie. Donc la fratrie de Oumi, donc on parle de la fratrie chien, hein de toute la portée au CZK, donc au centre d'élevage et de sélection des élèves chiens guides et chiens d'assistance, et avec du coup la maman de Oumi. Genre vous avez rassemblé quasiment toute la famille, je crois qu'il y a eu un ou deux absents, mais comment t'as fait ça et pourquoi ? Enfin pourquoi, je connais le pourquoi, mais comment surtout ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que pour notre premier chien, donc Trusty, on est rentré dans l'aventure, on était un peu surtout occupé à s'occuper de gérer au mieux le chien et de l'éduquer du mieux possible. Et donc, on n'a jamais trop pensé à ces histoires de fratrie. À l'époque, je savais que tous ses frères et sœurs étaient sur Paris. À la fin du moment où on l'avait, on est passé à Paris. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de rencontrer ses frères et sœurs Et alors, je t'avais envoyé un message à cette époque pour savoir si c'était possible. Si tu les connaissais ou non, en fait, ces frères et sœurs, tu m'avais aidé à en retrouver quelques-uns. Et du coup, on avait organisé une rencontre avec la moitié de sa fratrie, donc avec qui c'était une portée de 6. Et on s'était retrouvés avec trois des chiots. Et je me suis dit, quand on a eu Omi, en fait, ce serait bien de commencer à tisser des liens avec les familles. Et si on peut organiser une rencontre, ce serait vraiment génial. Mais c'était plutôt pour voir les autres chiots grandir, mais tout de suite et pas attendre un an où du coup le chien, toi aussi, il est rentré en éducation quelques jours après les retrouvailles avec ses frères et sœurs. Donc on n'a pas des liens qui sont très très forts avec les autres familles d'accueil parce qu'on ne s'est pas connus, on s'est vus une fois en vrai. On n'a pas beaucoup échangé de messages parce que les chiots sont tous rentrés en éducation. Alors, il n'y a que Trusty qui est rentré en éducation, ou alors ils ont tous été réformés. Du coup, ils sont partis dans d'autres familles d'adoption. Donc, on n'a pas eu des liens qui sont très forts avec les autres familles d'accueil. Et avec lui, je dis, pourquoi pas tester de les retrouver tout de suite. Et donc, avant de faire la rencontre, c'était plutôt pour suivre comment progressent ses frères et sœurs, savoir un peu où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils ont certains traits de caractère en commun, ou alors pas du tout, parce que chaque chien est un individu différent. Et donc, en fait, c'est parti avant la rencontre, c'était plutôt un échange avec d'autres familles d'accueil. Et donc, quand on a eu Omi, j'ai commencé à regarder sur les différents réseaux sociaux où pouvait être parti le reste de sa portée. Alors, j'ai l'avantage pour moi que Omi est une Golden Retriever, donc ça ne court pas autant les rues que des Labradors.
C'est ce que j'allais dire, hein. Labrador et Labrador noir en plus, voilà, il y en a quand même beaucoup. Et puis, dans un sens, là, pour Trusty, tu avais de la chance que toute la portée était quasiment à Paris. Pour le coup, avec Omi, on va en parler par rapport à la rencontre, mais c'était quand même assez éclaté en France. Les chiots sont partis dans toutes les écoles, ce qui est le principe du CZK.
C'est ça, exactement. C'est pas une grosse portée. Donc, Omi, c'est une portée de 6 chiots. Donc, c'est la première portée de la maman qui s'appelle Scala et du papa qui s'appelle Post-it, qui lui a eu un certain nombre de chiots. Donc, j'en ai retrouvé certains avec les écoles. Donc, j'ai retrouvé en fait en premier Unix qui est au centre Paul Corteville, donc à Lille. Ulysse qui est à Bordeaux. Et donc, j'ai retrouvé rapidement les deux familles d'accueil de ces chiens. Et grâce à la famille d'accueil du coup d'Ulysse, je suis tombée sur la page Facebook du CZK, qui du coup n'est pas une page, en fait, c'est un compte Facebook où il faut être ami pour accéder à toutes les photos. En étant ami du coup avec la page du CZK, j'ai pu tomber sur le post qui avait été fait sur sa portée. Et en fait, il y avait également des commentaires de la famille d'élevage de Scala et également d'une autre famille d'élevage qui a récupéré l'une des sœurs d'Omi qui s'appelle Huguette, en hommage à Huguette et Raymond, de scène de ménage, et qui était également, du coup, qui est restée au CZK.
Pour devenir future maman de Chien Guide, c'est ça?
Voilà, malheureusement, elle a été réformée pour un petit couac physique, mais elle va être adoptée par sa famille d'élevage, qui est ravie de la garder dans tous les cas.
Donc, tu as réussi à retrouver quasiment tout le monde?
J'ai réussi à retrouver quasiment tout le monde, et du coup, grâce à la famille d'élevage donc de Scala, elle s'est renseignée pour connaître, en fait, les noms des autres chiots, où est-ce qu'ils étaient partis. Et donc, comme ça, on a su qu'il y en avait deux, autres. Donc, Uros, qui était à Paris, Oupsi, qui est à Marseille.
Donc, ouais, vraiment aux quatre coins de la France. Parce que toi, on l'a pas dit, toi, tu es du côté de Nantes. Et donc, il a fallu retrouver un point de ralliement. Je crois qu'il était assez naturel, ce point de ralliement.
Le point de ralliement était assez naturel parce que on est un peu aux quatre coins de la France, mais il y a trois familles qui étaient au même endroit. Donc, toutes les familles d'élevage, des parents de Omi et sa sœur, qui sont à Clermont-Ferrand. Donc, quand on a choisi un lieu, en fait, pour se retrouver, on a pris le lieu qui est à la fois central au milieu de la France et en plus, c'est le lieu où il y avait le plus de personnes qui étaient déjà là. Donc, c'est comme ça qu'on a choisi le lieu de retrouvailles. Et donc, en fait, une fois qu'on a retrouvé les familles d'accueil, on a créé un groupe WhatsApp où on s'est partagé au fil de l'eau des photos, des échanges sur comment progresser nos chiots qui ont certains traits de caractère similaires.
Et c'est ce que j'allais te demander. Il y a des choses qui ont fait tilt entre vous.
C'est des chiens qui sont très beaux.
Je confirme, moi, j'ai vu Omi très jeune puisqu'on s'est croisés début mars. Ça devait être pour le Pois de Rennes. Et pour le coup, elle était toute mimi, quoi.
Très mignonne. Mais après, en trait de caractère, c'est des chiens, je dirais, qui jeunes étaient plutôt craintifs. Je pense qu'avec le temps, ça s'efface. Mais en effet, Omi était un peu plus que Trusty. On a eu des échanges sur d'autres chiots de la portée qui avaient peut-être un peu plus de crainte que les bons gros labradors qui sont pas craintifs et qui ont plein d'assurance. Après, c'est quelque chose que l'éducatrice n'a pas trouvé non plus anormal sur des Golden qui sont connus pour être un peu plus sensibles. Ils sont très câlins aussi, tous. Hein. En particulier, l'une de ses sœurs, que je m'en souviens, Oupsi, quand on s'est retrouvés, elle n'en avait rien à faire de ses frères et sœurs. Par contre, tous les humains qui étaient autour, elle était là pour aller commander des caresses.
Donc ouais, vous avez réussi donc à vous suivre sur les débuts de votre de la socialisation des chiots en famille d'accueil. Et rapidement, donc cette rencontre est devenue une évidence.
En fait, avant, il y a eu une autre étape qui est qu'on a commencé à se rencontrer, mais entre deux familles. Donc, il y en a qui sont partis en vacances en Bretagne et qui ont réussi à croiser d'autres familles. Alors, pas nous, parce que alors, c'est fou, c'était la famille qui était dans le Nord qui est venue en Bretagne. Et nous, au même moment, on était dans le Nord en vacances. On n'était pas aux mêmes endroits. En fait, on a commencé par faire du coup des rencontres au moment où on passait. Donc, moi, j'ai rencontré Uros et Suzanne à Paris quand je suis passée durant l'été. Les familles du Nix et du Lix, donc, qui sont respectivement à Lille et à Bordeaux, se sont rencontrées également pendant l'été. Et c'est du coup lors de ces rencontres qu'on a évoqué le sujet de dire ça pourrait être sympa de faire une rencontre avec toutes les familles. C'est possible, on a la chance d'avoir une portée qui n'est pas si grande, hein, parce que si par rapport à certaines tailles de portée au CZK, ça reste relativement petit. Et du coup, on a commencé à évoquer le sujet une fois qu'on s'est rencontrés en vrai. Moi, j'y pensais depuis le début, c'était plutôt un rêve en disant ça serait incroyable si on fait ça, mais en disant c'est quand même compliqué de... Déjà, on n'a pas tous les mêmes vies professionnelles, personnelles, hein, parce qu'il y en a qui ont des enfants, d'autres qui sont... Enfin, nous, on est jeunes actifs, il y en a qui sont à la retraite. Enfin, voilà, on a des rythmes de vie qui sont complètement différents, des contraintes qui ne sont pas les mêmes. Il y a une famille qui sont professeurs, l'un des conjoints est enseignant. Du coup, on va partir aux vacances scolaires. On est un peu contrainte par les vacances. Et une fois qu'on a eu du coup ces rencontres entre plusieurs familles, c'est là qu'est venue l'idée de se dire on pourrait peut-être essayer de faire une rencontre générale avec ceux qui le souhaitent et qui sont intéressés. Et donc on a évoqué le sujet, donc on a eu trois rencontres avec différentes familles durant l'été, et c'est arrivé du coup à partir du mois de septembre. On s'est dit que ça pourrait être sympa, et on a proposé différents week-ends, et on est parti sur celui où a priori ça collait à tout le monde.
Donc vous avez réussi à faire ça à l'automne.
C'est ça, exactement. Donc, on s'est retrouvés début novembre. Donc, il y avait donc sur la portée de 6 chiots, il y en avait 5. Il y en a un qui a malheureusement dû déclarer forfait. En fait, il s'est blessé à la patte. Et bon, c'est sûr qu'un week-end de retrouvailles avec 6 chiots et plein de chiens qui courent dans tous les sens, on lui a préconisé du repos pendant 15 jours. Et donc, la famille, à un grand regret, elle a dû dire ça sera pas possible de venir, parce que sinon, ça risque d'aggraver le cas du Nix.
Donc, vous avez quand même fait 5 sur 6, plus les parents.
Plus les parents, exactement, parce que du coup, donc, on était en contact également avec la famille d'accueil de Post-it, donc par mail, parce que du coup, pour le coup, ils n'ont pas WhatsApp. Donc, je leur envoyais, je leur faisais des messages photos tous les mois de tous les chiots, une page par chiot avec une couleur par chiot, qui sont d'ailleurs les couleurs que j'ai repris pour leur bandana.
C'est ce que j'allais dire, c'est que tu as été organisée jusqu'au bout. J'ai adoré voir ça, et ça fait partie de mes petits projets secrets. On verra où j'en serai au mois de mai, quand on va diffuser cet épisode. Mais avoir des bandanas, et là, tu avais prévu un bandana par chiot avec le nom brodé.
C'est ça, exactement. Ouais. J'ai fait des bandanas avant d'arriver. Alors, je m'y suis pris un petit peu à la dernière minute, parce que je dois avouer qu'il a fallu que je fasse un message sur le groupe en disant « Qui a une machine à coudre pour que je finisse de faire mes bandanas à Clermont-Ferrand ?» Donc, heureusement qu'il y a une des familles qui en avait une et qui a pu me la prêter pour que je finisse. Oui, j'ai eu l'idée une semaine avant, en fait. Donc, pour faire 8 bandanas, c'était un petit peu sportif. Parce que du coup, j'en ai fait pour tous les chiots, parce que chaque chiot était associé à une couleur. Alors, c'est pas la couleur de leur collier, parce que ça, je les connaissais pas avant qu'on aille au CZK. Mais c'est des couleurs que je leur ai attribuées pour que ça soit plus visuel pour la famille Post-it quand elle regarde les photos, et que chaque page, elle est... Et le texte, ça doit venir de mon métier de consultante.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Tu as aussi une déformation un peu professionnelle de rassembler, organiser. Hein. Je reviens sur les mots, organiser et passionné. Il y a le mot organiser. Sinon, c'était quand même le prérequis, on va dire, à tout ça.
C'est ça, ouais. Ça aide beaucoup d'organiser et puis d'avoir quelqu'un qui mène aussi l'organisation et les retrouvailles. Donc nous, en effet, j'ai fait des bandanas pour les 6 chiots. Et puis les parents avaient 2 bandanas, tous les deux jaunes, pour identifier leur statut de reproducteur, pour broder avec le nom de Scala et Post-it. Donc on a fixé donc la date, et après donc il y a eu on a réservé le logement, donc on s'est trouvé un Airbnb pour les 4 familles.
Wow. Et les 4 chiens.
Les 4 chiens aussi, en effet. On a trouvé. Alors oui, parce que bon, on a de la chance quand même, parce que normalement du coup les élèves chiens guides sont tolérés dans les hébergements, même qui n'accueillent pas de chiens normalement. On s'est dit, il y a 4 chiens, on va quand même chercher un hébergement qui accueille les chiens de base. Parce que sinon,
c'est ce que je fais.
Les pauvres, ils vont être quand même un peu surpris. Un chien, ça peut passer à la rigueur. Ça nous est arrivé, nous, de prendre des Airbnb où on explique avant de réserver pour voir si c'est OK, en lui expliquant qu'il est blessé, qu'on le surveille, etc. On le laisse pas seul dans le logement. Mais 4 chiens, bon, même si on les a jamais laissés sans surveillance.
Mieux vaut que le proprio soit quand même OK, ouais. Et moi, tu sais, je disais souvent, hein, pour les hôtels aussi, au final, quand je réserve un hôtel et qu'on a un chien en relais pour l'été et tout, et qu'on part quand même un petit peu en vacances en proximité avec, de préférence, je prends un hébergement qui accepte les chiens, même si c'est un chien guide. Et puis, si vraiment je trouve pas, bah là, on fait jouer l'exception. C'est juste rigolo quand tu y vas et qu'ils te disent « Ah oui, bon, par contre, vu que c'est un élève chien guide, on va pas vous faire payer. » Bah oui, bravo, vous appliquez la loi, félicitations, alors qu'eux, ils pensent faire une petite fleur, mais c'est très sympa, il faut le dire de manière très pédagogique. Mais oui, là, donc, vous avez tablé sur un hébergement qui accepte les chiens, c'était quand même un peu plus raisonnable vis-à-vis du nombre de chiens, comme tu le disais.
C'est ça, mais du coup, avec la contrainte qu'il nous fallait quand même 4 chambres, enfin, il fallait séparer les 4 chiens pour dormir, parce que sinon, c'est vrai que ça soit la fête toute la nuit. Donc, on a choisi un hébergement qui répondait aux différentes contraintes qu'on avait. Donc, la principale, c'était pouvoir accueillir des chiens et avoir autant de chambres que de chiens accueillis pour être sûr que bah, chaque chien va pouvoir dormir calmement et bien se reposer. Et nous aussi, en fait. Hein. Donc voilà, donc on a tout organisé. Et mention spéciale quand même à la famille d'Oupsi, qu'on a retrouvé très tard. Hein. On a retrouvé seulement au mois de septembre, et du coup, qui est arrivé dans le groupe WhatsApp en plein milieu de l'organisation et qui s'est tout de suite lancé dedans en disant « Bah oui, on est intéressé, on vient et puis on sera dans le Airbnb. » Donc, c'est trop cool. Nous, on s'attendait pas, quand on l'a organisé, on s'attendait pas à ce qu'il y ait la famille d'Oupsi qui vienne parce qu'on a évoqué le sujet, on les avait pas encore retrouvés sur les réseaux sociaux. Donc, ça a été une belle surprise de dernière minute de se dire « Ah bah tiens, on va récupérer Oupsi ». Bon, on a eu un absent quand même unique, mais c'était pas la volonté de la famille d'accueil. Hein, malheureusement,
c'est la vie.
Et donc, début novembre, on s'est retrouvés au CZK. Donc, nous, on est partis avec Oumi très tôt le vendredi matin en train. On a mis 6 heures de train. On a fait télétravail l'après-midi dans un espace de coworking. Après, on s'est retrouvés du coup au gîte avec toutes les familles. Les chiens étaient ravis de se revoir. C'était la grosse fête, en particulier du coup entre Oumi et ses deux frères, parce que comme je disais tout à l'heure, Oupsi, elle n'était pas du tout intéressée par ses frères et sœurs. Elle avait des choses à grignoter. C'était ça qui l'intéressait. Et puis les caresses des humains, mais les autres chiens, pas particulièrement.
Ouais, mais chacun son truc, quoi.
Voilà, c'est ça, chacun son truc. C'est un bon point pour elle, hein, quand même, parce que nous, on travaille souvent l'attirance congénère. C'est quelque chose qui est très facile pour nos élèves. Et elle a l'avantage que les chiens, elle s'en intéresse pas trop. Un peu plus maintenant, parce qu'on l'a revue à Marseille il y a un mois. Elle était plus intéressée pour jouer avec nous. Il y a peut-être aussi le fait qu'elles étaient que 2, et peut-être que 4, ça faisait beaucoup de chiens. Et donc, ça évolue, mais elle grandit avec 2 chiens plus adultes dans sa famille, et a priori, ça lui suffit comme dose de chiens. Donc, quand elle se balade, elle n'est pas intéressée par les chiens. C'est très bien pour sa famille.
Un bon point.
Un bon point. Et donc, on est arrivé le vendredi soir, donc on a pris l'apéro, on a échangé, on se connaissait déjà par message, mais du coup, c'était l'occasion de se rencontrer en vrai, d'échanger plus longuement sur... Il y a plein de différences au final entre les écoles. Hein. C'est ce que ça nous a permis de rencontrer, enfin de découvrir ce groupe. Hein. C'est qu'on a tous la même vocation, mais dans l'éducation, dans l'organisation, il y a des petites différences, il y a des similitudes. Et pour autant, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Mais voilà, chaque école fait...
Chacun a son histoire. Chaque école a son histoire, ouais.
Voilà, chaque école a son histoire. C'est pas les mêmes... Je pense à la problématique de l'eau, notamment nous, nos chiens, ils n'ont pas le droit d'aller à l'eau à Nantes. À Marseille, ils ont une autre contrainte qui est que, ils ont beaucoup de piscines, donc il y a une question le chien ne meurt pas dans la piscine, donc les habituer à l'eau aussi pour ça. Et il y a le fait qu'il fait chaud en été, donc en fait, ils sont obligés de les rafraîchir, mais même avec l'école, ils les emmènent se baigner, en fait. Hein. Alors qu'à Nantes, il est vrai qu'il fait rarement très très chaud. Il fait chaud un petit peu l'été, mais je dirais pas on n'a pas les mêmes canicules et les mêmes températures qu'à Marseille, où en effet, du coup, en fait, la géographie fait qu'on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes règles, mais il y a plein d'autres choses qui s'expliquent aussi en termes de différences.
Et vous êtes quand même allé au CZK le lendemain, du coup ?
C'est ça. Donc, le lendemain, en fait, la famille du coup d'élevage de Scala, donc la maman d'Oumi, avait organisé avec la personne qui est référente de Scala la possibilité qu'on visite l'élevage, notamment parce que ça ne s'est jamais arrivé qu'il y ait des chiens qui reviennent à l'élevage après partie à 2 mois, en fait. Et donc, on a retrouvé la personne qui suit à la fois Huguette, donc la sœur d'Oumi, et Scala, sa maman. Et il y avait également la technicienne d'élevage, donc c'est elle qui a fait la mise bas, toute la portée, qui est en fait le technicien d'élevage, c'était son jour de travail, parce que du coup, bah, ils ont toujours des chiens à l'élevage, donc il faut toujours, il y a des astreintes le week-end, des personnes qui sont présentes. Et la technicienne d'élevage, pour le coup, si je ne me trompe pas, c'était un de ses jours de travail, mais vu qu'elle avait fait la mise bas, elle avait envie de les revoir, et donc... Bah, on n'a pas refusé, nous on était ravis qu'elle nous explique aussi comment s'était passée la mise bas, comment elle avait connu les chiots. Et donc, en effet, le samedi matin, on est resté jusqu'en milieu d'après-midi, je crois, on est allé visiter ces écas. Donc, on a pu également revoir en fait Scala et Huguette qui étaient toutes les deux en chaleur à ce moment-là. Donc, en plus, de toute manière, elles sont confinées au centre. Donc, on n'avait pas d'autre option si on voulait les voir que d'aller au centre d'élevage. Donc, on a fait une visite des locaux.
Trop bien, j'ai des petits chiots.
On a vu à travers la vitre qui sont très mignons. D'ailleurs, anecdote amusante, il y a des chiots que j'ai vus qui sont arrivés à Nantes.
Ah, trop chou.
J'ai pu envoyer des photos aux familles en disant « Ah oui, mais je les ai vus tout bébés à travers la vitre. » C'était très sympa de visiter. Puis, ils nous ont parlé aussi de bah, comment ils sélectionnaient les reproducteurs, les échanges de chiens qu'ils avaient aussi avec les autres écoles, parce que du coup, la technicienne d'élevage, elle a adopté une chienne qui a été envoyée par les États-Unis, en fait, qui a fait emporté, qui est resté ici. C'était très sympa d'en apprendre plus sur bah, comment fonctionne le centre d'élevage, parce que en fait, on n'est pas trop en contact en tant que famille d'accueil, n'habitant pas à proximité. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Je le savais un petit peu avec l'épisode. J'ai oublié son nom.
Élodie.
Élodie, c'est ça. Avec Opal, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça. Élodie est famille d'élevage et donc Opal. Pour le coup, elle est reproductrice pour le CZK, et c'est dans l'épisode 42, si vous voulez l'écouter. Elle avait raconté un petit peu comment ça se passe quand on est famille d'élevage, et donc elle parlait du CZK, en effet.
C'est ça. Et d'ailleurs, Opal, on l'a vu, parce qu'elle avait une portée à ce moment-là, elle a une belle portée. Hein, parce
une
qu'elle...
grande portée.
Avec plein de chiots. Le personnel nous a dit que c'était une très bonne maman, qu'elle reprenait, qu'elle éduquait bien ses chiots et tout. Et on l'a vu, en effet. Elle les reprend si jamais il y a des petites bêtises. On va faire comme ça.
Et donc, vous avez fait cette petite visite et vous avez quand même fait une grande balade peut-être avec tous les chiens. Comment ça s'est passé ?
Ce jour-là, non, on a lâché les chiens à la fois à l'intérieur mais également dehors parce qu'ils ont des parcs. On ne les a pas laissés tout seuls dans les parcs parce que alors, la plupart des chiens, des chiots de la portée, ça fonctionnait très bien ensemble. Mais il faut savoir que Omi est un peu compliquée avec ses frères et sœurs, encore plus qu'avec les autres chiens. Voilà, Omi, elle a deux petits défauts, on est l'un d'entre eux et que quand elle joue avec les chiens, elle est pas très cool, faut le dire. Hein. Elle grogne, elle mordit les oreilles, le poitrail. Bon, les autres chiens ne savent pas forcément dire non, surtout à cet âge quand ils sont chiots, hein, c'est compliqué pour les chiots de dire non à des sollicitations, même si on voit qu'ils sont pas très intéressés. Et du coup, moi, je préférais toujours avoir Omi sous les yeux pour si besoin arrêter le comportement et qu'elle les laisse tranquilles et qu'elle leur laisse de l'espace. Donc ils ont bien joué sous surveillance, exactement. Et donc le soir après, on est allé au restaurant tous ensemble. Mais c'était très bien parce qu'ils avaient bien joué, donc ils ont été bien dormi. Des images, voilà, ils ont bien dormi à nos pieds, donc très très calme. Donc c'était très top. Et donc ça, c'était donc le samedi et le lendemain. On a retrouvé du coup Post-it, parce que du coup ça ne collait pas les dates pour qu'on fasse toutes les retrouvailles tous ensemble. Et donc on a retrouvé Post-it avec donc les 4 chiots qui avaient fait le déplacement, parce que du coup Scala et Huguette étaient pour le coup toujours confinés
en chaleur aussi.
Confinés en chaleur, et voilà. Et en plus Post-it qui est du coup un mâle reproducteur et pour l'instant qui n'est pas stérilisé, bon.
Bah oui. S'il rencontre en chaleur, là, les chiens, la fille ou la mère, il s'en fiche, lui.
Voilà, c'est ça. Oh, bah, de toute manière, oui, il était intéressé, je pense. Les mâles, on l'a vu aussi, hein, les frères et sœurs de Huguette, donc qui, pour le coup, étaient stérilisés. Ils étaient quand même très, très intéressés par cette sœur qui était en chaleur. Moins par les autres, mais on voyait qu'ils faisaient que de la suivre. C'était vraiment où allait Huguette, tout le groupe suivait.
Ouais, il y a quand même les phéromones et tout ça, même si après, il n'y a pas la
période. C'est ça, il y a les phéromones. Et puis, elle était vraiment à la période pile poil, là où la mère était au tout début de ses chaleurs, mais elle était au moment parfait pour la reproduction. Donc, j'imagine que là, il y a l'instinct animal qui s'exprime quand même. Et du coup, c'était quand même très curieux et très intéressé.
Et du coup, vous êtes rentrés à peu près tous chez vous, parce que tu disais qu'il y avait 6 heures. J'imagine que le dimanche a été dédié un peu au retour.
Oui, c'est ça. Donc, le dimanche matin, on a fait une détente avec les chiots et Post-it. Donc, en nature, ça leur a fait du bien, je pense, de courir avant de refaire la route. Et après, on est parti bah, des heures différentes selon les trains, en fait, à chaque fois. Donc, entre midi et nous, avec Suzanne, on avait pris un train qui était vers 16h, je crois. Donc, pour faire la route du retour et pour rentrer à la maison. C'était vraiment un week-end qui était très chouette. Hein. C'était pas très long, mais c'était vraiment unique. Et comme le disait le CZK, eux, ils n'avaient jamais vu ça. En fait, hein. Ils doivent avoir 20 ou 25 ans d'existence. Ils n'ont jamais connu des familles qui se retrouvaient. Après, nous, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux.
C'est ce que j'allais dire. Moi, j'avais fait plusieurs fois, hein, quand j'avais des chiens, essayer de retrouver les chiots. Alors, quand tu as un berger allemand, c'est plus simple, entre guillemets. C'est encore plus simple qu'un Golden Retriever, s'il y en a encore
moins. Exactement, ouais.
Mais c'est vrai que c'est difficile. Puis, toutes les familles d'accueil ne sont pas forcément connectées. Ce n'est pas une obligation. Et donc, il y a quelques années, c'était encore plus compliqué. Et puis, il faut mener à bout le projet. Moi, c'est vrai qu'ayant des chiens en relais tout le temps, en fait, si je faisais l'exercice à chaque fois, Et puis, moi, je n'avais pas le chien sur un an. Donc là, c'est génial de le faire entre familles d'accueil, puisque vous avez eu le temps de programmer ça, et surtout dans un bon timing, parce que là, Oumi est encore avec toi, mais plus pour très longtemps, puisque bonne nouvelle, après toutes ces interrogations sur ces divers points de santé, tout est levé et tout va bien, en tout cas, pour qu'elle rentre en éducation.
C'est ça, elle rentre en éducation la semaine prochaine, avec quand même une interrogation qui reste, parce que donc Oumi a eu un parcours de santé en effet qui est un peu compliqué au niveau des yeux, donc les yeux c'est bon, et après il y a au niveau de la peau, donc on suspecte qu'elle a une maladie qui s'appelle la dermatite atopique, qui est quelque chose qui est pour le coup assez courant chez ces races comme les labradors et les golden. Nous, l'école disait qu'ils ont environ une réforme par an qui est liée à la dermatite atopique. Donc c'est de l'eczéma pour chien, c'est un chien qui va avoir des allergies, qui va se gratter, qui va se lécher. C'est un traitement qui peut être un peu coûteux. Et donc du coup, c'est des chiens qui sont réformés pour pas mettre un chien qui a un handicap à une personne qui est déjà en situation de handicap. Et du coup, donc elle est en régime d'éviction pendant 8 semaines pour voir est-ce que ce serait lié à son alimentation, ce qui du coup reste potentiellement gérable par une personne en situation de handicap, là où si c'est aux acariens, au pollen, bon, ça c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, hein. Et donc, elle finira son régime d'éviction à l'école d'ici fin mars. Et après, elle va retourner voir le dermatologue. Donc, elle va être suivie sur les premiers mois attentivement au niveau de ses soucis de peau pour vérifier est-ce que ça s'améliore. Et du coup, est-ce qu'elle peut potentiellement devenir chien guide, hein. Après, il reste toute la partie comportement aussi.
Il y a toute l'éducation et il reste quand même encore un peu de parcours à faire. Mais en tout cas, il y a eu 2 ou 3 doutes qui ont été levés sur ses hanches, sur pas mal de choses, qui fait que là... tous les feux sont au vert.
C'est ça. Et en effet, nous, la rencontre, fallait qu'on la fasse avant les 1 an, parce que du coup, donc, pour Uros qui apparaît, donc, il est rentré en éducation. Alors, pour l'instant, la famille peut le récupérer le week-end, mais habituellement, à Paris, ils restent plutôt au chenil le week-end et ne retrouvent pas leur famille. Donc là, c'est possible pour les premiers week-ends, mais elle ne le gardera pas normalement jusqu'au bout. Et après, ses autres frères et sœurs, pour le coup, ils peuvent encore se retrouver parce qu'ils ont un système où les chiens sont en internat la 2e année, donc reviennent tous les week-ends dans leur famille et pendant les vacances éducateurs. Et Oumi, elle, va rejoindre une autre famille de week-end à Angers, parce qu'à Nantes, on fait juste la 1re année. Et donc la 2e année, ils vont ou à Angers ou à Pont-Scorff, à côté de Lorient, où ils sont à l'école la semaine. Et le week-end, ils retrouvent une famille qui est à proximité de l'école pour que ça soit quand même plus facile en termes de route.
Pour les récupérer le week-end. Et puis de toute façon, toi, c'est ce que tu m'avais dit quand on s'était parlé à la fin de l'aventure avec Trusty. Tu m'avais dit, ah, 2e élève, c'est pas dit, on a des plans. Et là, ces plans arrivent du coup exécution au mois de mars. Donc là, le timing, comme on le disait avant l'enregistrement, est quand même tout pile.
Oui, c'est ça. Là, ce qui s'était posé comme question, c'est qu'ils n'étaient pas sûrs, l'école, au début, de la faire rentrer en éducation. Finalement, ils l'ont fait parce qu'ils ont eu des chiens réformés et du coup, il faut qu'ils fassent rentrer d'autres chiens en éducation. Mais normalement, à la base, elle devait partir dans une autre famille pour finir son régime d'éviction parce que nous, on ne pouvait pas la garder jusqu'au bout. Et finalement, du coup, elle ira à l'école. Mais dans tous les cas, ça tombe très bien parce qu'on avait prévenu l'école que fin février, il fallait que Comi parte de l'appartement parce qu'on allait le rendre aussi.
Et vous faites le grand saut. Vers le Grand Nord, du coup.
C'est ça, exactement. Nous, on déménage en Norvège, donc on avait un doute sur le fait de prendre un 2e élève, parce qu'au début, le projet, c'était plutôt de partir tout début 2024. Et finalement, j'ai réussi à convaincre mon conjoint en disant, bon, au mois de janvier, il va faire très froid, donc on peut peut-être attendre un petit peu. J'ai eu raison parce qu'ils ont eu des températures qui sont extrêmement faibles et très exceptionnelles. Pour le coup, ils ont eu des moins 20 degrés à Oslo. Et j'ai dit, on peut peut-être attendre le mois de mars, comme ça, ça collerait bien avec l'arrivée d'un deuxième élève chien guide. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir un deuxième élève, parce que normalement, elle était censée partir en éducation un petit peu plus tôt si elle n'avait pas eu ses sous ici.
Donc, tu avais tablé sur un timing parfait qui, au final, se réalise plus ou moins entre le décalage du voyage.
Le décalage du voyage et le fait qu'en fait, il n'y a pas d'autres chiens prêts pour rentrer en éducation. Donc, c'est elle qui rentrera, puis ils aviseront ensuite.
C'est fou comment en 2 ans, vraiment les premiers échanges qu'on avait eus, ensemble, je crois que tu avais découvert le podcast. Je ne sais plus exactement comment tu l'avais découvert.
Oui, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je connaissais les chiens guides depuis très longtemps, parce qu'il y a eu fut un temps où j'ai un projet de devenir vétérinaire, comme toi, si je me trompe pas. Et j'avais dû voir dans des reportages qu'on pouvait devenir famille d'accueil. Alors, Andy chien ou chien guide, je ne sais pas ce que c'était quand j'avais vu le reportage, je me suis dit, ça pourrait être intéressant, si je suis étudiante vétérinaire, de faire ce projet. Puis j'ai changé d'orientation, et du coup, en fait, ce projet qui était plutôt, en fait, c'est un plus bonus des études d'étudiante vétérinaire, du coup, j'ai complètement oublié, c'est sorti de mon esprit. Et en fait, j'ai rencontré, via le travail, donc Carole Sens, que tu as interviewé, je ne sais plus dans quel podcast. Le 52. Ah, j'étais pas loin. Qui du coup était famille d'accueil dans mon entreprise et que j'ai échangé avec elle et du coup j'ai pu lui poser mes questions que je pense beaucoup de familles ont en disant moi j'ai jamais de chien donc ça doit pas être possible. En plus, j'ai pas de jardin, j'ai un appartement. Et elle m'a dit ah, pas de souci, moi c'est mon premier chien. On l'a fait avec Peanuts. On était dans un appartement pendant le Covid, donc confiné et ça
à
a
Paris.
Très bien fonctionné. À Paris, exactement. Et donc, grâce à elle, donc, j'ai redécouvert le rôle de famille d'accueil. Et je me suis dit que ce serait super intéressant de me lancer dans l'aventure pour pouvoir avoir un chien. Alors, j'ai découvert après qu'on n'avait pas un chien, on avait un chiot. Hein. Il y a une différence quand même. Mais d'avoir un chien tout en ayant une vie de citadine et de pouvoir, de ne pas avoir en fait, à laisser son chien tout seul à la maison 5 jours par semaine, hein, parce que je n'ai pas prendre un chien qui resterait tout seul dans un appartement toute la journée. Surtout que moi, j'aime bien les chiens qui ont une certaine taille, donc il faut aussi les occuper. Mais je ne me voyais pas non plus me projeter juste avec l'échange avec Carole, donc je suis tombée sur son podcast et alors, j'ai écouté tous les épisodes pendant 2 semaines. C'était mon occupation et du coup, c'est super intéressant parce que y a plein de profils différents de familles d'accueil. Donc ça m'a aidé à me projeter en me disant c'est probablement possible. Et je t'avais également contacté pour savoir si tu connaissais des personnes qui avaient la contrainte que moi j'ai dans mon métier, qui est que je suis consultante. Donc contrairement à Carole qui était sur les fonctions support, donc qui est dans les locaux de mon entreprise mais qui n'allait pas dans des locaux d'autres entreprises, moi je me déplace chez mes clients et du coup, je me suis posé des questions sur comment c'est accepté par les autres clients, parce que du coup, il nous faut plusieurs validations de plusieurs entreprises, pas juste uniquement de notre employeur. Donc, je t'avais demandé si jamais tu avais des retours d'expérience qui s'étaient bien passés, d'autres familles, parce que l'école m'avait dit, nous, on n'a pas d'autres cas similaires. Hein, au vôtre, donc, on ne pourra pas vous donner des points de comparaison. Et finalement, ça s'est très bien passé avec les clients. J'ai eu un refus d'un client. Tout le reste ont accepté son souci et au pire, ils n'étaient pas très intéressés par le chien. Donc, ils ont déjà confondu Oumi et Trusty, qui sont quand même, rappelons-le, un labrador noir et une golden sable.
Moi, j'ai eu ça quand j'avais des chiens en relais, des collègues, et je ne leur en veux pas, hein, mais qui ne sont pas très intéressés par les chiens, comme tu le dis. Et c'est possible. Tout le monde n'a pas à être passionné comme on l'est. Et voilà, je respecte. Moi, j'avais des chiens en relais, donc par définition, jamais les mêmes et sur des périodes courtes. Et je me souviens d'un collègue qui a dit... ça y est, il est de retour. Alors, je crois que c'était vraiment 2 races complètement différentes, 2 couleurs complètement différentes. C'était juste, un chien avec 4 pattes et 2 oreilles. Ça m'avait bien fait rire, surtout à 3-6 mois d'intervalle. Le chien, il avait doublé de taille, il avait changé de couleur avec des oreilles en pointe parce que je pense que c'était des races bergers ou je sais pas quoi. Mais bon, comme tu le dis, c'est pas grave. C'est pas ce qu'on leur demande.
C'est ça, voilà. Et donc, ils acceptent le chien. Et après, pour le coup, j'ai eu des clients où... C'est un véritable vecteur de lien social qui me demandait des nouvelles du chien quand en fait j'allais des fois sur site donc pour plusieurs jours avec le chien et après on fait pas mal d'échanges aussi à distance et du coup lors de ces échanges à la fin des points ils ont dit alors on n'a pas abordé le sujet du chien, comment va-t-il rester aujourd'hui? Et donc c'est comme ça que je suis lancée dans l'aventure mais les podcasts m'ont beaucoup aidé à me lancer dedans.
merci, mais en tout cas moi je t'avais raconté aussi c'est Clément qui quand il était consultant aller aussi à droite à gauche et avec en plus des élèves différents. Et je me souviens d'une entreprise qui l'avait accueilli à grands bras ouverts avec Nolka. Elle avait même son badge, je crois que je t'en avais parlé.
Ah, incroyable.
Elle avait son badge avec le nom de la société, c'était Chien Guide Paris. Et elle avait son badge parce qu'il y allait pour une mission de, je pense, d'une semaine ou deux sur place. Et du coup, bah, voilà, il lui avait créé son badge pour la dizaine de jours qu'elle était avec nous pendant les vacances.
Ah, c'est une attention qui est vraiment trop mignonne. Hein.
Ouais. Et franchement, comme tu dis, c'est aussi vecteur de lien social. Enfin, on le dit toujours sur le podcast, mais même dans le milieu de l'entreprise, on en parle un peu moins. Ça aide et ça apporte de la légèreté ou alors du sérieux. Et ça, je l'ai dit dans certains épisodes. Toi, tu as déjà dû l'entendre. Mais je sais aussi que les premières fois où Clément était en open space avec des chiens en relais, ça a largement aidé les collègues à ne plus envoyer des balles de tennis de l'un à l'autre de bureau parce que bah, ça, voilà, pour eux, c'était leur manière de se détendre. Mais du coup, quand il y avait un chien qui sautait dessus, c'était un peu voilà. Mais bon, ça, du coup, il fallait faire attention au moment de pause et au moment pas de pause. Et je sais que ça a aidé à pas formaliser les choses, mais juste organiser un petit peu plus les temps de travail collectif et les temps un petit peu plus détente, on va dire. Mais Carole, en effet, que tu as peut-être recroisé avant qu'elle, je sais qu'elle a changé d'entreprise, mais elle a aussi changé de région et c'est de ça dont on avait parlé dans l'épisode avec elle. C'est le fait de poursuivre son engagement en changeant de région, donc de Paris à Nantes, pour le coup.
C'est ça, exactement. Donc les bureaux nantais ont eu la chance de connaître plusieurs élèves, enfin sur les 5 chiens qu'a eu mon entreprise, il y en a eu un à Paris, donc Peanuts, qui est pour le coup très connu de certains Parisiens qui sont là depuis un certain temps. Quand on leur parle de chien guide, ils donneront le nom de Peanuts. Et après, elle a eu du coup 2 chiens à Nantes et moi j'en ai eu 2. On a eu Trusty et Témis qui étaient 2 labradors noirs en même temps. Qui, alors c'est rigolo, ils étaient tous les 2 à Nantes, mais ils sont tous les 2 nés à l'école de Paris.
Ouais, donc vous avez vraiment exporté les Parisiens.
On a exporté Carole et les chiens.
C'est ça, elle est venue. Oui, c'est vrai. Et elle avait eu Rio entre-temps. Et donc,
c'est ça.
Pour ça que tu as fait 5. Un caniche. Ça, c'était chouette. Il était bien beau, ce caniche. Et je me demandais, parmi toute cette aventure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou découvert que tu n'imaginais pas forcément quand on a eu nos premiers échanges par mail, par exemple?
Je pense que c'est la partie vecteur de lien social qui revient dans pas mal d'épisodes. Mais entre l'entendre et le vivre, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, en fait, à quel point les gens vont venir à notre rencontre, parfois dans la rue. Enfin, moi, je me suis retrouvée la semaine dernière à échanger avec une dame dans le métro à Paris qui, en fait, sa fille est bénéficiaire d'un handichien. Et donc, on a échangé sur comment s'appelait son chien, comment il aidait sa fille, etc. Mais en fait, j'aurais pas eu le chien, on ne saurait pas adresser la parole du tout, hein. Donc, c'est un vecteur de lien social aussi autour des chiens guides, hein, parce que donc on intègre une communauté, on a un chien, mais on intègre toute une communauté d'humains et de chiens avec les éducateurs. Nous, j'ai créé aussi à Nantes un groupe WhatsApp avec toutes les familles qui sont du coup d'accueil et relais, où on se partage du coup plein de photos, voilà, histoire de ne pas polluer nos amis qui n'ont pas forcément de chien, de leur envoyer des photos, mais. Et on a envie de partager quand même les progressions de notre élève. Et du coup, on s'envoie plein de photos, plein de conseils. Mais du coup, voilà, tout ce qui est autour de la communauté, j'ai découvert aussi les différences de fonctionnement entre les écoles. Parce que pour le coup, je pensais que ce serait pareil de la même façon. Que ça soit Paris, Lyon, Marseille ou Nantes, ils ont tous les mêmes modes de fonctionnement. Et en fait, pas du tout. Et puis, ça évolue avec le temps. Parce que là, j'ai appris récemment que le futur maître de Trusty, notre premier élève, il n'est pas habitué à comment a été dressé Trusty, parce que Trusty répond uniquement à la voix, notamment pour les commandes droite-gauche, alors que ses précédents chiens, en fait, il répondait à l'orientation du guidon. Mais Trusty, en fait, lui, il n'a jamais été dressé en fonction de l'orientation du guidon, comme les chevaux, du coup, de réagir, est-ce qu'on va à droite ou est-ce qu'on va à gauche. Et donc, il y a aussi une question d'adaptation pour le maître, mais c'est aussi, en fait, l'école qui a évolué dans le temps sur comment on éduque le chien. Donc, il y a ça que j'ai découvert. Et après, toutes les rencontres qu'on peut faire autour des chiens guides, moi, j'ai en tête en particulier... Je crois que tu as plus la question de est-ce qu'on a fait une rencontre particulièrement marquante.
Non, mais tu peux quand même y répondre.
Ouais, je vais répondre quand même parce que j'en ai fait une qui est outre les rencontres que j'ai faites avec toutes les familles d'accueil de la portée d'Oumi. J'ai rencontré à Jersey une dame qui est formidable, qui s'appelle Yvonne. En fait, on est parti en vacances à Jersey et comme c'est du coup un pays qui n'est qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui en plus, c'est pas la France, donc il y a d'autres règles pour les chiens guides, en particulier les élèves, parce qu'en fait, c'est en fonction des pays, les élèves, ils n'ont pas du tout les mêmes droits. J'ai découvert avec nos deux élèves qu'en France, on avait quand même pas mal de chances qu'ils aient les mêmes droits que les chiens guides. Ce n'est pas le cas dans la majorité des pays. Et donc, je me suis renseignée par les réseaux sociaux des groupes de familles d'accueil qui étaient britanniques. Et également, ils ont une page dédiée à Jersey pour savoir un peu comment ça se passe avec les élèves. Est-ce que c'est possible qu'on amène Oumi avec nous parce que c'était l'objectif, ou est-ce que en fait ça va être un trop d'organisation et beaucoup trop compliqué pour aller dans aucun lieu et en fait ça va être trop complexe pour nous, et est-ce que dans ce cas-là il faut qu'on envisage une famille relais? Et du coup Yvonne, elle nous avait répondu plein d'informations sur les documents qu'il faut transmettre au ferry pour venir, les sites qu'on peut visiter. Elle nous a dit si vous voulez en plus moi, je peux la garder 2 heures pendant que vous visitez le site et tout. J'étais là, bon, alors, si j'ai rencontré, mais c'est super. Et quand on est allé, du coup, on les a rencontrés pour de vrai. Yvonne et Richard, qui sont du coup des familles d'accueil, qui sont une famille d'accueil qui est expérimentée, parce que là, ils viennent de récupérer, là, il y a une semaine, leur 5e élève. Et ils nous ont fait faire le tour de l'île en présentant les coins trop sympas pour faire les détentes. On a rencontré d'autres chiens guides, enfin, d'autres élèves qui ont été réformés et adoptés, du coup, sur l'île, parce que la famille d'accueil était de Jersey, et puis ils nous ont retrouvés quand on a fait du vélo sur l'île pour prendre un café. Donc non, ils ont été très très sympas. On a appris plein de choses sur les chiens guides britanniques, comme ils doivent faire de la formation en ligne pendant 40 heures avant de devenir famille d'accueil, si je ne me trompe pas. Ils ont des cours en ligne, etc. Ils n'ont aussi pas la même contrainte géographique, parce que du coup, Yvonne, elle est sur Jersey, donc elle a un éducateur qui vient en avion toutes les 6 semaines. Je me suis dit, alors nous, on n'a pas les budgets pour faire venir des gens en avion.
Oui, c'est vraiment un autre monde. Hein. À l'étranger, on a des approches très différentes du chien guide.
Oui, des approches qui sont différentes. Et puis, tout un autre système pour récolter des fonds, parce qu'ils n'ont pas du tout la même culture de faire des dons. Les chiens, par exemple, moi, c'est moi qui ai choisi le nom d'Oumi, parce qu'à l'école des chiens guides de l'Ouest, souvent, à partir du 2e chou, on a la possibilité de choisir, sous réserve de validation de l'école, le nom du chiot, ou d'en proposer un ou plusieurs et qu'ils choisissent ensuite. Et en fait, en Angleterre, les chiots sont nommés par des sponsors qui payent 5000 livres pour nommer les chiens. Et donc, c'est un moyen de récolter des fonds, en fait, le nom des chiens. Mais du coup, ça leur permet de pouvoir financer du coup, des vols en avion pour aller former des chiens. Donc ça, c'était une très belle rencontre. Et du coup, on est toujours en contact avec Yvonne et on apprend plein de choses sur comment ça fonctionne les chiens guides en Angleterre. C'est encore plein d'autres règles par rapport à la France.
C'est sûr qu'à l'étranger, c'est passionnant aussi de voir comment certains pays ont beaucoup plus d'histoire avec les chiens guides que nous en termes d'années. Nous, on est à la fois jeunes dans le mouvement et à la fois un peu plus expérimentés que d'autres. Voilà, on n'est pas non plus les derniers du tout.
C'est ça, ouais. Je pense qu'on est plutôt au milieu, mais les pays anglo-saxons sont en effet bien avancés. Le CZK nous disait aussi qu'en termes de suivi de reproducteurs et des lignées pour les améliorer, etc., ils ont un meilleur suivi qui, je pense, est facilité parce qu'en fait, ils ont une seule organisation qui est à la fois présente partout au Royaume-Uni et qui a le centre d'élevage. Là où, nous, on a plusieurs écoles, donc bon, il faut que les infos communiquent. C'est pas toujours facile de communiquer parce qu'on n'est pas dans la même organisation, donc il faut penser à s'envoyer les infos. Tout est centralisé, donc un centre d'élevage aussi, là où nous, on en a 3.
C'est sûr que nous, c'est le rôle de la fédération. C'est là, la FFAC, son rôle justement de coordonner et le réseau d'élevage est dépendant de la fédération, via le CZK. Mais la construction a été différente et du coup, on continue d'avancer et de s'améliorer. Mais
on progresse au fur et à mesure.
Mais moi, déjà, depuis le début, depuis 2016, moi, je vois d'énormes évolutions. Hein. Il y a eu plein de choses de faites. Je me demandais, dans les petites questions de fin, s'il y a un moment où tu as été bluffée par Oumi ou Trusty, et qui reste un souvenir marquant pour toi?
Alors pour Trusty, je pense que c'est quand on l'a revue au mois de novembre avec son éducatrice et qu'on a vu son travail au guidage. Et je trouve ça, c'est forcément impressionnant de se dire on l'a connu tout petit, il a fait plein de bêtises et l'attention qu'il avait par rapport à son éducatrice, il était extrêmement concentré au travail. Là où son éducatrice, elle n'était pas très sûre quand il nous a revus puis qu'il nous a fait la fête, qui réussissent à bien se concentrer. Et elle a dit qu'elle était très impressionnée par sa concentration et le fait qu'il prenne beaucoup sur lui. Alors, il nous jetait des petits coups d'œil pour bien la guider, malgré que on était là et qu'on était un élément perturbateur. Et donc, on a été très impressionnés parce qu'on n'avait jamais vu ça. on n'avait jamais vu ça. Et puis là, c'est un de nos chiens. Enfin, on voit des gens dans la rue qui sont guidés, mais en fait, on les croise, mais on n'a pas connu le chiot bébé. Et donc, en fait, le fait de le voir guidé et de voir tout ce qu'il a appris et de voir qu'il travaille très bien, c'est une telle récompense. Et c'est extrêmement marquant parce qu'on se dit, tout au long du parcours, on n'est jamais sûr qu'ils arrivent au bout parce qu'il y a plein de choses au niveau de la santé, du comportement qui peuvent faire que ils sont peut-être pas faits pour le métier de chien guide. Et donc, du coup, de le voir travailler et de le voir aussi heureux de travailler, parce que donc, c'est un chien gourmand, donc forcément, il est très, très content de travailler parce qu'on lui donne à manger. Et donc ça a été mon souvenir marquant, je pense, avec Trusty. Et Oumi, la chose qui nous impressionne à chaque fois, c'est quand elle joue avec des chiens, que ça se passe bien, du coup, on n'arrête pas le jeu, et que le chien commence à partir un peu loin ou hors du champ de vision, si jamais on est dans une forêt, en fait, Oumi s'arrête et revient vers nous. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a naturellement, qu'on renforce à chaque fois, mais qui est une qualité naturelle qu'elle avait depuis toute petite. Et à chaque fois, on est impressionné. On se dit, est-ce que ça va le faire ou est-ce qu'elle va s'en prendre? Et il y a eu peut-être 2-3 fois, il est parti un peu loin, mais globalement, elle a cette capacité naturelle à rester proche de nous. Des fois, ça peut être à 20 mètres, mais elle reste dans le champ visuel. Et de s'arrêter, alors que le chien, lui, continue. Là où Trusty, je pense que quand nous, on l'avait à son âge, maintenant, il le ferait peut-être plus, mais il serait peut-être parti avec le chien et il se serait pas arrêté. Donc ça nous impressionne à chaque fois et on est toujours super content de l'avoir revenir. Trop bien, incroyable.
Et justement, tu parlais de lieux. Est-ce qu'il y a un ou des lieux exceptionnels où tu as été via les chiens guides où tu n'aurais jamais été si tu n'avais pas eu Trusty ou Oumi à tes côtés?
Alors, le premier lieu où je pense, c'est le CZK. Parce que c'est sûr que je n'aurais jamais été visiter le CZK. Je suis trop loin. Je ne sais même pas s'ils font des journées portes ouvertes. Donc, je pense que j'aurais jamais été visiter le CZK si j'avais pas été dans les chiens guides. Après, dans 2 autres lieux exceptionnels où j'ai été, alors j'aurais pu y aller sans, mais c'était quand même un peu insolite. J'ai fait ma remise de diplôme avec Trusty. Donc, on a fait la remise avec tous les élèves. Donc, j'avais prévenu l'école avant pour dire qu'il y aurait un élève chien guide.
Ton école à toi, du coup?
C'est ça, j'avais prévenu mon école que j'allais revenir. Donc, Trusty, d'ailleurs, a assisté à 2 remises de diplôme. Donc, celle de. Alors, moi, j'ai fait. Une année supplémentaire et il y a eu le Covid entre temps. Donc, en fait, j'ai assisté à la remise de diplôme de mes amis qui ont été diplômés avant moi, le papier, mais vu qu'il y a eu le Covid, ils ont été diplômés après. Donc, j'ai assisté à cette remise de diplôme avec Trusty, où moi je suis assise dans le public, et j'ai assisté du coup à ma remise de diplôme d'une autre école. Donc, j'ai fait un double diplôme ingénieur manager, donc de mon école de commerce, avec Trusty, où là, le directeur m'a dit qu'ils n'avaient jamais eu. qu'ils n'avaient jamais eu. qui accompagnait les étudiants sur scène. Mais du coup, ouais, c'était un petit peu la star de la soirée. Alors, sur les photos, c'était un peu compliqué parce que c'est un chien noir et qui fait plutôt sombre. mais c'était un moment incroyable. Moi, j'ai trouvé de pouvoir l'avoir avec moi, même s'il n'a pas suivi à l'école, dans les cours, et que c'était une autre partie de ma vie. Mais et aussi de sensibiliser les gens, en fait. Hein. Ça fait le lien, puis ça sensibilise pas mal de monde. À chaque fois qu'on est avec le chien, on explique leur formation, pourquoi ils sont là, puis les gens sont toujours très intéressés, très curieux. Et avec Oumi, le lieu qui m'est revenu, c'est quand on était en vacances dans le Nord, on est monté dans des beffrois. Et donc, les marches sont assez raides, donc Oumi nous a accompagnés jusqu'en haut, mais elle avait du mal à redescendre. Donc, il a fallu que je redescende, je sais pas, 300 marches avec Oumi dans les bras. Et Oumi était ravie d'être dans les bras. Hein. J'ai la chance qu'elle ne bouge pas trop et qu'elle se laisse très bien porter. Je peux encore la porter là aujourd'hui dans les bras si je le souhaite, même si on ne s'amuse pas à le faire parce que ça pèse un peu lourd. Mais du coup, plusieurs fois, quand on était dans le Nord et en Belgique, il a fallu que je la porte du coup, pour descendre des beffrois. Et on a visité une brasserie aussi, parce qu'il y a pas mal de bière là-bas. Il a fallu du coup la porter parce qu'il y avait des escaliers qui étaient très raides. Alors, on était montés par des escaliers qui n'étaient pas très raides. Et puis, ou alors que ça marche, c'est plus simple pour eux de monter, mais la redescente n'est pas possible. Et du coup, je l'avais portée... sous les regards amusés de tous les participants à la visite guidée.
Et ben alors, il est bien ce chien, hein, dis donc, il en profite.
Hein. Ah, c'est ça, il guide pas trop, hein, là.
Bon, après, c'est des, comme tu dis, hein, moi je parle de lieux exceptionnels, c'est des lieux dans lesquels ils vont pas faire l'essentiel de leur métier de chien guide derrière, de toute façon. Donc,
Non, je pense pas qu'elle visitera une brasserie. Et pour le coup, je pense que ça aura pas été possible parce que. Les escaliers sont trop raides pour qu'elle guide quelqu'un dans les escaliers, en fait.
Et oui. Donc, et oui.
Là, ça marche parce qu'elle était encore, en plus, c'était durant l'été, donc elle avait 6-7 mois, donc je pouvais la porter plus longtemps parce qu'elle était aussi un peu moins lourde que maintenant.
Hein. Et oui. Et pour finir notre échange, je pose toujours la question du pire et du meilleur moment avec, avec les chiens guides que tu as rencontrés, du coup.
Alors, mon pire moment, je savais très bien lequel dire quand je préparais l'épisode, c'est l'arrivée de Trusty. Alors, ça peut paraître bizarre, mais nous, on n'avait jamais eu de chien. Et du coup, quand les éducateurs, ils arrivent, ils arrivent avec le chien. Et donc, pendant une demi-journée, donc un après-midi, ils nous expliquent toutes les règles et tout. Et pour autant, on est juste aux règles de base. Hein. On est sur le assis, couché, les manipulations, comment on distribue à manger, comment on le porte jusqu'au caniveau, etc. Et en fait, il y avait tellement de règles que la nuit, moi, j'en ai pas dormi. C'est ma première nuit blanche. Je faisais que de me retourner et tout. Je me suis dit, oh, mais en fait, je n'avais jamais réussi à retenir toutes ces règles et à les appliquer. Et bon, en plus, je n'ai pas eu de chance. Enfin, j'ai pas eu de chance. Mon copain a dit que c'était la très bonne période pour partir 3 jours après le départ de l'arrivée de Trusty en vacances avec sa famille en Espagne.
Donc, tu t'es retrouvée solo.
Donc, je me suis retrouvée toute seule pendant une semaine où je me suis dit dans le week-end, c'est pas possible. Il va falloir que j'appelle mon entreprise pour lui dire, je sais, je vous ai convaincu, on a préparé un petit flyer pour expliquer aux entreprises, mais en fait, je vais arrêter le projet parce que je ne peux pas. Ça va être trop compliqué. Je pense que le changement de rythme était très important. Moi, je n'avais jamais vécu avec des chiots. Je ne m'attendais pas à un tel changement. Je pense que c'est moins qu'un enfant, mais je pense que quand on devient maman, ça va être la même chose que d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on n'était pas préparé. On a essayé de se préparer, mais en fait, c'était encore.
Bah, moi, je disais, hein, pour la vie de maman, on était préparé à l'accouchement, mais pas après. Et du coup, nous, on avait un peu le réflexe de dire, on le rend quand. Alors, c'est pas méchant, hein, mais parce que tu as toujours des relais et tu te dis, bon, c'est quand la fin de la mission. Bon, bah, je l'adore, mon baby boy, donc on le rend pas. Mais c'était un peu ça au début, tu te dis, on veut bien donner du temps, mais jusqu'à quand, quoi.
Mais en fait, je pense que c'est quelque chose auquel l'école ne prépare peut-être pas assez, parce qu'après, les éducateurs, eux, c'est leur métier, donc ils n'ont pas non plus la même vision que les familles d'accueil. Que c'est vrai que les premières semaines, enfin les premiers jours, les premières semaines, le temps de mettre en place l'organisation, c'est un peu sportif et du coup, c'est déstabilisant. Moi, je sais qu'il y a un des frères de Trusty qui a eu 2 familles. Sa première a abandonné très rapidement. Je crois qu'elle était seule pour le coup. Mais je pense qu'il y a aussi la question de, en fait, quand on arrive, on est un peu dépassé. Et moi, je me suis dit au début, oh là là, je vais pas y arriver. Je dis, bon, on s'accroche un petit peu et on va voir. Et au final, en fait, ça s'est très bien passé. Et pour Omi, il n'y a eu aucun souci à l'arrivée parce que on connaissait le principe, on était préparés. Bon, faut l'avouer, elle était aussi un peu plus simple que Trusty. Mais moi, mon pire moment, c'est la pression que je me suis mise moi-même en me disant, mais je vais pas réussir, ça va être. Je vais rater l'éducation du chien, il va pas devenir chien guide parce que. J'arrive pas à m'occuper correctement.
Et c'est vrai que tu vois, j'ai fait 2 épisodes en immersion sur les premiers jours parce que je trouve que c'est vraiment. Alors, moi, pour le coup, je ne l'ai pas encore vécu, mais je sais que ce sera un bon tourbillon aussi. Et je sais que j'avais fait l'épisode avec Florian dans l'épisode 34, qui est le mari de Arthur de Loya, qui lui, du coup, pareil, a récupéré un chien en famille d'accueil. Et ce qui était rigolo, c'est qu'en faisant le 2e épisode avec Valérie, à l'arrivée d'un nouveau futur chien guide, elle en avait déjà eu plusieurs. C'est pas forcément plus simple. On sait à quoi s'attendre, mais c'est pas forcément plus simple. Et bon, là, Oumi était plus simple que Trusty, mais c'est pas forcément le cas. Tu peux avoir du plus compliqué alors que t'avais toujours eu du plus simple. Et je me souviens dans l'épisode 40 avec Valérie, ouais, ça avait été éreintant aussi pour elle et le format en immersion où elle m'avait envoyé justement ces petits audios au fur et à mesure des jours était vraiment très intéressant pour justement ces premiers jours où c'est difficile de se projeter quand même.
Bah, dans tous les cas, ça reste quelque chose qui est. Enfin, un chiot de 2 mois, nous on l'a vu, Trusty n'était pas parfait quand il est rentré. On a récupéré Oumi 2 semaines plus tard, on s'est dit Trusty n'est pas parfait, mais quand même, il était bien éduqué par rapport à un chiot qui est tout bébé, qui ne connaît rien. Enfin, Oumi était plus facile parce qu'elle dormait plus longtemps et on n'a eu quasiment aucun accident. On en a eu 4 hein, en maison. Trusty, on en a eu 4 les 2 premiers jours, voire plus. donc c'était un peu plus sportif dans cette problématique-là. Mais après, il y a eu des choses qui ont été plus faciles avec Trusty et d'autres plus faciles avec Oumi. Enfin, chaque chien est différent. Donc, en fait, il y a des problèmes qu'on n'avait pas avec le premier qu'on rencontre avec le deuxième et inversement. Il y a des choses qui étaient difficiles avec le premier. Ça, c'est naturel pour le deuxième chien.
Et ton meilleur moment ?
Il y a tous les câlins qu'on leur fait. Ça, c'est toujours incroyable. En plus, on a la chance pour Oumi qu'elle est extrêmement câline. Donc, elle est très demandeuse de câlins. Et après, il y a aussi toutes les. Enfin, à chaque petite victoire, quand on essaye de mettre en place un exercice et qu'on réussit, ça nous fait toujours quelque chose au cœur de dire, oh là là, trop bien, on a réussi. Et puis, en plus, ça, plus le chien, c'est un exercice où c'était compliqué, plus la satisfaction est grande quand on réussit quelque chose. pendant plusieurs mois, on a travaillé. Enfin, là, je le pense avec Oumi qui a des soucis avec son jeu avec les autres chiens. Hier, on a fait une détente où ça a été super bien, mais des fois, elle a reniflé le chien. Et après, elle nous a suivis parce qu'on continuait à marcher. J'étais incroyable, elle a pas essayé de lui sauter dessus.
Bravo!
Donc, quand on a des victoires qu'on voit que le chien progresse, en fait, à chaque progrès du chien, je dirais que c'est un moment qui est incroyable. Enfin, un sentiment de satisfaction en disant, bah, on a réussi à le faire progresser. Donc, ça, je dirais que c'est une satisfaction qu'on a chez tous les chiens. C'est des choses simples, hein, du coup, les câlins et les petites satisfactions, mais je dirais que c'est ça les meilleurs moments qu'on a avec eux.
Bon, bah écoute, il me reste à souhaiter une bonne éducation à Oumi. Trusty va être remis, pour le coup.
C'est ça.
Ça y est, un maître a été désigné pour lui. Et vous, donc, nouvelle vie, tu nous as dit à Oslo. Pas de chien guide en vue dans la vie future ?
Bah, j'ai envoyé des mails aux écoles, donc on verra ce que ça donne. J'en ai une qui m'a répondu, qui m'a dit que c'était possible de nous faire les cours en anglais, parce que on parle pas norvégien, donc il y a la contrainte de la langue. Hein. Ils nous ont dit que c'était possible de nous faire les cours en anglais et de nous apprendre les commandes en norvégien. Mais bon, d'abord, on va trouver un travail pour moi, trouver un appartement, s'installer, et après, on verra est-ce qu'on se lance ou non dans l'aventure des chiens guides en Norvège et est-ce que c'est compatible avec notre mode de vie. Et ça va dépendre aussi de qu'est-ce que devient Omi. Si jamais elle est réformée, forcément, on se posera la question de est-ce qu'on l'adopte ou non. Donc, je pense qu'on va attendre. On va attendre quelques mois et peut-être en 2025, qui sait, on va être de nouveau un élève chien guide qui parlera pas la même langue que nos premiers.
Ok. Et pour suivre tout ça, alors je vous invite à suivre l'Instagram de Séverine. C'est French-puppyraiser. Ça marche aussi si tu pars en Norvège, tu seras toujours une French Puppy Raiser.
Voilà, je l'ai choisi notamment avec Safetoptic, c'était un nom qui était du coup Puppy Raiser, qui c'est le nom qui est utilisé pour désigner les familles d'accueil dans les pays anglo-saxons, donc ça marchait aussi à l'étranger, donc je serai toujours sur son compte si jamais on a des chiens là-bas, que ça soit du coup en accueil ou si jamais on adopte Omi. J'aimerais bien ne pas quitter la communauté des familles, des familles qui gravitent autour de l'association, donc pourquoi pas Famille Relais.
Bon, écoute, merci beaucoup pour cet échange, pour tous tes conseils pour organiser une rencontre. Et puis, on se dit à bientôt, au moins en visio, Instagram, etc. Et puis peut-être à Oslo, qui sait.
Qui sait. Et écoute, merci à toi, Estelle, pour l'invitation et puis pour tout le travail que tu fais autour des podcasts qui, je suis sûre, aident beaucoup de familles à sauter le pas, à devenir famille d'accueil.
Je le réalise que maintenant, en regardant le calendrier de quand est-ce que ça sort, notre épisode sortira au mois de mai et on fêtera les 4 ans du podcast dans les jours qui suivent, en tout cas.
Ah, trop bien. Bravo. Félicitations.
Merci. Ce sera l'occasion peut-être d'organiser une rencontre. Pourquoi pas à Lyon au lieu d'à Paris. On va voir comment ça se présente. Voilà pour les petites infos. Et à très bientôt.
À très bientôt. Merci Estelle. Au revoir.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas si vous organisez à votre tour de telles rencontres entre familles d'accueil, maîtres de chiens guides et autres. Et si vous avez apprécié cet épisode avec un retour aux sources du côté du CZK, je vous conseille de découvrir celui d'Elodie de l'épisode 42 sur son aventure de famille d'élevage de la belle Opal, une charmante bergère allemande, maman de chien guide au CZK. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles. Toi aussi, tu as envie de lancer ton podcast ? C'est en effet ce que m'ont confié certains auditeurs de futurs chiens guides comme toi. Mais par où commencer ? Comment passer à l'action à partir de ton idée ? Comment enregistrer ? Et avec quel matériel ? Mais surtout, comment faire pour qu'il soit disponible partout comme mon podcast ? Toutes tes réponses sont dans la formation de mes amies podcasteuses Solène de Friendship et Florence d'Avant J'étais Prof. Pour lancer ton podcast en 30 jours ou plus, via 30 leçons vidéo et 30 exercices à appliquer à ton idée. Et pour ne pas le faire en solitaire, leur accompagnement Podcastons Ensemble te permettra d'échanger chaque mois en visio avec d'autres podcasteurs comme toi pour t'entraider et te motiver. Et crois-moi, je ne serais jamais arrivée jusqu'ici sans l'échange avec d'autres. J'ai d'ailleurs négocié un tarif d'amis rien que pour toi. Tu auras 5% d'office sur la formation avec mon code ESTELLE5. Toutes les infos sont disponibles sur formationpodcast.podia.com. J'ai hâte d'écouter ton premier épisode très bientôt.